I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sarah Ellermeyer, Sally Bone et Lucille Como et Fabrice Bousteau pour parler ensemble de Homer jusqu'au 22 juillet au Louvre-Lens, Chicago Foyer d'Art Brut et jusqu'au 2 août à la Salle Saint-Pierre. Il y aura un coup de cœur de Sarah Ellermeyer sur l'exposition Lucy Stahl à la galerie Friedman Fitzpatrick et puis donc le petit salon de Lucille Como qui sera consacré ce soir à l'Atelier des Lumières. Et nous ouvrons cette dispute avec l'exposition Homer, à découvrir jusqu'au 22 juillet au Louvre-Lens. Alain Jobert, Alexandre Farnoux, Vincent Pomared et Luc Pirala en sont les commissaires, assistés par Alexandre Estaquet-Legrand, dans une scénographie de Martin Michel, des lumières signées Grégory Mortelette. Voilà pour la grande équipe qui a constitué cette exposition Homer, qui a toujours été un grand pourvoyeur de récits de notre humanité. L'Iliade et l'Odyssée restent quand même les piliers de la culture occidentale, en tout cas. Beaucoup de mystères demeurent jusqu'à l'existence même d'Homère. Le Louvre-Lens nous propose une immersion dont nous allons parler dans le temps d'Homère et son influence jusqu'à nos jours. On va débattre autour de cette exposition. D'abord un premier tour de table, une phrase pour exprimer votre sentiment sur cette exposition. Sally Bone.
Une belle exposition, riche, qui travaille habilement à déconstruire la figure du poète.
Sarah Ellermeyer.
Alors, pas du tout d'accord. Moi, j'avais plutôt une expo très scolaire, très littérale, avec pas beaucoup d'enjeux, qui ressemble un peu à un livre d'histoire illustrée.
Fabrice Bousteau.
Un péplum, une sorte de Game of Thrones avec du sang, du sexe et de nombreuses chimères.
Préférée de Lucille Como, c'est un hommage pour vous. Mais c'est Ulysse, chanté par Nino Ferrer et raconté par Nino Ferrer, parce que Ulysse, évidemment, il a donné naissance à tellement de livres, de chansons, de films, d'opéras. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais nous parlons d'une exposition, Sally Bone. Est-ce que vous pouvez en résumer les grandes lignes du parcours?
Alors d'abord, on est accueillis par les dieux de l'Olympe. Donc
c'est pas mal déjà.
C'est pas mal, oui. C'est une entrée un petit peu monumentale, puisqu'il y a 6 ou 7 statues qui sont sur un piédestal et qui donc surplombent le visiteur, qui est immédiatement impressionné. Cette monumentalité un peu héroïque est contrebalancée par 2 œuvres plus ou moins contemporaines, un tableau de Cy Twombly et un tapis de la manufacture des Gobelins avec un chant de l'Iliade. Et puis on rentre en fait dans le chant, puisqu'on entend en grec ancien des vers de d'Homère, et puis qui sont aussi traduits. Et on est aussi accueillis dans cette première entrée par la muse Polymnie. J'espère ne pas me tromper. Et ensuite, on entre dans Homère et son image, c'est-à-dire l'ensemble des représentations d'Homère à mon sens, immédiatement en question la figure d'Homère en tant que le poète de l'Iliade et l'Odyssée. Ensuite, le parcours se déploie selon évidemment les deux œuvres principales, c'est-à-dire d'abord l'Iliade. Alors là, un grand couloir qu'on traverse avec des œuvres qui datent de l'Antiquité grecque jusqu'à nos jours. Il y a quelques œuvres contemporaines. Pas tellement, on y reviendra sans doute, qui équilibre. Ensuite, on arrive au poème du cycle, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'Iliade et l'Odyssée, mais qui contribue à la mythologie grecque. Et puis, on peut faire un aller-retour dans l'homéromanie, c'est-à-dire Homère et ses représentations, l'influence chez les artistes, les objets du quotidien, les objets décoratifs, le rire. On a même des gravures de Daumier autour de d'Homère et de ses... et de son histoire, et puis on finit en fait par la traversée de l'Odyssée.
Beau résumé, Sally. On va pouvoir prendre les choses un peu plus en détail, mais d'abord une question, elle aussi générale, Fabrice Bousteau, parce que c'est une question qui se pose surtout dans ce type d'exposition, mais dans toute exposition. À qui s'adresse-t-elle cette exposition, Homère, selon vous?
Alors d'abord aux héromaniaques. Femme et homme. Mais moi j'étais assez frappé, j'y suis allé pour tout vous dire ce matin de très bonne heure, et il y avait beaucoup de scolaires, des lycées environnants, et qui étaient assez fascinés par cette histoire. C'est-à-dire que c'est typiquement une histoire qui parle à tout le monde.
Donc l'expo s'adresse à tout le monde selon vous ?
L'expo s'adresse à tout le monde parce qu'elle est très pédagogique. Pour tout vous dire, je n'ai pas une passion absolue pour Homère, j'y suis allé un peu en traînant les pieds pour vous. Et j'ai été ravi par cette exposition. Je la trouve vraiment très pédagogique, et je trouve que le propos est assez intéressant de vouloir traverser toutes les époques, évidemment avec une période qui est beaucoup plus développée, qui est le 19e siècle, où il y a une vraie passion pour Homère au 19e siècle. Une faiblesse d'ailleurs qu'on voit sur le contemporain, puisque le contemporain, grosso modo, s'arrête au Poirier, avec presque en finale un tableau exceptionnel de Dorin, qui est vraiment une révélation pour moi, qui est un tableau, je trouve, très étonnant pour un Dorin, et on y reviendra tout à l'heure. Mais ça montre aussi qu'effectivement, sans doute, pour les artistes aujourd'hui qui ont entre 25 et 35 ans, Homère, c'est un peu, on s'en fout un peu comme sa mère, quoi.
Bon, c'est pour la rime. Alors c'est pour tout le monde, mais pas pour Sarah Hélermeyer, a priori. Pourquoi cette exposition ne trouve pas grâce à vos yeux, Sarah ?
Eh bien, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de, qu'il n'y en a aucune même de véritable mise en perspective historique, sociale ou économique de ces récits homériques, qui sont présentés en fait avec les valeurs dont ils sont porteurs, comme des sortes d'invariants, quelque chose d'éternel, comme ça, qui traverserait les époques de manière égale. Ce qui fait que toutes les œuvres sont présentées sur le même plan, au même niveau, comme s'il s'agissait finalement que de variations de style, et pas de variations de contexte, qui impliqueraient différents usages, en fait, des récits homériques. Et puis, il y a d'autres défauts, il me semble, pour une expo qui se veut justement très pédagogique et didactique. C'est qu'il y a toute une partie de l'histoire qui n'apparaît pas dans cette exposition, et qui est le Moyen-Âge. Donc nécessairement, puisqu'en fait le retour des récits homériques dans les arts visuels, ça correspond à la redécouverte de l'Antiquité, à la Renaissance. Je crois que ça aurait été quand même bien de le préciser dans l'exposition, ou au moins dans le catalogue, ce qui n'est pas le cas. Et puis après, comme le disait Fabrice, un autre pour moi défaut quand même de cette exposition, c'est qu'il y a un nombre trop important de peintres académiques du 18e et du 19e siècle, avec un nombre par contre trop faible de chefs-d'œuvre de l'époque moderne. On peine à les trouver parmi toutes ces œuvres. Donc il y a quand même un Watteau, bien heureusement, un jugement de Paris, deux Rubens, et puis il y a un Camille Corot également. Et quant aux œuvres d'art contemporain, il est très beau, justement, mais c'est partie des raretés de cette exposition. Et quand on arrive, pour les artistes contemporains, là c'est vraiment la part congrue de l'exposition.
On y revient dans un instant sur les contemporains, pour partager un peu votre sentiment avec vos camarades Sally Bone.
Alors,
les critiques.
Oui, je comprends ces critiques-là. Moi, je trouve quand même, effectivement, la part de la peinture du 19e est très présente. Une galerie de prix de Rome, en fait, notamment dans l'Iliade.
C'est le Louvre. C'est à Lens, mais c'est le Louvre.
Alors,
quand même.
Il se trouve quand même qu'effectivement, les œuvres, elles proviennent soit du Louvre, évidemment, soit de la collection des Beaux-Arts de Paris, notamment les moulages qui ont été restaurés. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, les moulages ont été restaurés dans l'atelier de restauration qui se trouve au sous-sol du Louvre-Lens, et en plus un atelier de restauration qui est visible, c'est-à-dire qu'en fait on peut assister à la restauration des moulages. Et donc il y a ces deux collections principales avec quand même des pépites. Alors, moi, je trouve que tout ce qu'ils ont réussi à sortir d'Athènes, du musée archéologique, non, parce qu'en fait, c'est pas évident. Et les Athéniens, prêtent rarement des œuvres et les sortent rarement des musées. Et là, il y a quand même des choses absolument magnifiques, notamment dans les vases anciens. Puisqu'il y a une partie que j'ai pas mentionnée parce que c'est une sous-partie dans ce grand parcours qui est la question de l'écriture et l'oralité. Mmh. C'est-à-dire qu'après la figure du poète, on rentre dans ce questionnement entre d'abord parce que les chants homériques sont des chants qui sont chantés par des aèdes avec des instruments de musique et ils sont ensuite fixés par l'écriture. Et ce rapport-là entre l'oralité et l'écriture est à mon sens très bien présenté, et notamment avec des objets absolument somptueux qui sont un ostracon, c'est-à-dire une pierre avec inscrit à l'encre, et ça date de 50 avant Jésus-Christ, à l'encre, les premiers vers de l'Iliade. C'est bouleversant, vraiment. Mmh. Et puis d'autres à côté dans la même vitrine, des petits morceaux de marbre où on voit des scènes de l'Iliade ou de l'Odyssée qui sont sculptés, et à côté de ces scènes de l'Iliade et de l'Odyssée, il y a le texte en grec qui est gravé dans le marbre. Bon, enfin, moi je pense que rien que pour ça, ça vaut le détour d'aller jusqu'à Lens pour voir ça, parce que c'est absolument magnifique. Et ensuite, ce qui est à l'œuvre dans ce rapport à l'oralité et à l'écriture, c'est aussi l'histoire même de ce texte, et ils ont fait ce qu'ils appellent une galerie des anachronismes, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé en fait dans les collections archéologiques des objets qu'on retrouve dans l'Iliade et l'Odyssée. Et ces objets-là, ils couvrent 8 siècles, c'est-à-dire du 16e avant Jésus-Christ au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc pour remettre aussi en question évidemment la figure d'un texte qui serait unique et qui travaille ce feuilletage historique qui, au fond, on retrouve dans toute l'exposition.
Alors, c'est le côté enquête, quoi.
Oui, c'est vrai que ça, les œuvres contemporaines, c'est un petit peu dommage qu'il n'y en ait pas plus. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas plus. Il y a quand même une jeune artiste qui s'appelle Manon Recordon qui a fait un film qui s'appelle Le Chant d'Ulysse, qui est assez beau parce qu'il met aussi en perspective la question de la Méditerranée et ce qu'elle signifie aujourd'hui pour nous aussi, avec ce qu'elle véhicule.
Bon, vous avez fait le lien vers le contemporain, mais je reviens un petit peu en arrière, Fabrice Bousteau, sur ce rapport des forces aussi entre les différentes périodes, ce que pointait Sarah Ellermeyer sur cette trop grande place, sans doute 18e, 19e. Comment vous l'avez vécu, vous ?
Écoutez, moi je l'ai plutôt bien vécu parce que cette exposition, en fait, c'est le deuxième volet de mise en place par la directrice du musée, qui avait fait déjà avec amour cette volonté de relier les périodes différentes de l'histoire de l'art et d'y mettre un peu de contemporain. Donc c'est un peu de contemporain, on est au Louvre aussi, on n'est pas au Centre Pompidou, donc c'est normal également, moi qui suis féru d'art contemporain, qui soit pas dominant. Par contre, je trouve que le traitement, il y a aussi une chose qu'il faut que les auditeurs se mettent bien en image dans la tête, c'est que ce Louvre qui n'a pas une architecture spectaculaire, qui joue tout dans la transparence, avec une exposition permanente dont on a beaucoup parlé, qui est
la Galerie du Temps,
et qui fonctionne sur un principe d'un très grand plateau, où on progresse dans l'histoire de l'art. Et en fait, ce principe de plateau.
Dans l'histoire de l'art, tout continent mélangé. On est sur une frise chronologique, vraiment. Chronologique, moi, c'est un lieu que je trouve admirable.
Que je trouve admirable. Et on a un peu l'impression, quand on visite cette Galerie du Temps, donc encore une fois, qui est permanente, et allez-y, de flotter.
Les œuvres changent.
Les œuvres changent, mais peu. C'est 20%, oui, oui. 20% par an, à peu près. Et elles sont mentionnées, d'ailleurs, lorsqu'elles changent. On a un peu l'impression, lorsqu'on va dans cette Galerie du Temps, de flotter, d'être dans un espace, je trouve, très, très, très étonnant, parce qu'à la fois très futuriste, j'ai l'impression d'être dans 2001 Odyssée de l'espace avec des objets d'art qui flottent. Eh bien, la scénographie de cette exposition sur Homère, elle procède du même principe. Et je trouve, encore une fois aussi, je suis d'accord avec vous, c'est que elle déconstruit également le mythe d'Homère. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand vous me posez cette question, à qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse vraiment à tout le monde, parce que ce que raconte aussi cette exposition, c'est on n'est pas du tout sûr que Homère ait existé. On en propose d'ailleurs dans l'exposition plusieurs portraits possibles. On n'est pas du tout sûr que ces textes soient l'auteur d'un seul homme, qu'il n'ait pas été écrit, réécrit. Donc que tout cela ne soit pas une fiction. Et j'aime bien cette idée d'une exposition entre guillemets fiction. C'est important de parler des commissaires de l'exposition, puisque c'est une exposition à l'initiative de Alain Joubert, qui avant tout est un écrivain. Et donc c'est un récit, une histoire. Entre nous aussi, moi j'ai appris des choses absolument incroyables. Il y a un moment donné, il y a des vers d'Ulysse qui sont dans l'exposition. J'aurais très envie de vous les lire, mais j'ai
en grec
peur.
Ancien.
Non, en grec ancien. Non. Pas en grec ancien.
Allez-y.
Mais qui prône une forme de sadomasochisme pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une tempête. Et quand on apprend que Turner, dans un de ses plus beaux tableaux, s'est fait enchaîner au mât d'un bateau pour pouvoir réussir à bâtir la tempête, et que c'est issu d'une préconisation d'Homère avec quelques vers fabuleux. Moi, je trouve que cette exposition, elle est à prendre un petit peu comme si vous alliez sur Netflix et que il y avait une fiction qui était en 100 morceaux différents et que chacun doit les coller à sa manière. On crée sa fiction. C'est une belle exposition.
Sarah Hélermeyer.
Oui, non, mais alors je suis d'accord avec Sally pour dire qu'il y a des très belles œuvres évidemment antiques, grecques et romaines. Pour ce qui est de la déconstruction de la figure d'Homère, ça me paraît être la moindre des choses que de préciser que c'est une figure énigmatique. Et je ne crois pas que cette exposition ça soit véritablement son enjeu, en tout cas si on en croit le texte d'introduction. Après, à défaut d'avoir, parce que justement Fabrice parlait de l'exposition Amour, et justement l'intérêt de cette exposition, c'était de venir historiciser en fait les différentes représentations des relations amoureuses au fil de l'histoire, tout ce que ne fait pas cette exposition. Mais à défaut de créer des perspectives historiques, sociales ou politiques, je trouve qu'il y aurait pu avoir des éléments aussi d'histoire de l'art, qui préciseraient pourquoi d'ailleurs on a autant de peintres académiques. Pourquoi ? En tout cas parce que justement l'Académie royale des Beaux-Arts mettait en avant la peinture d'histoire, allégorique, mythologique ou biblique, au-dessus des autres genres. Et c'est pour ça qu'on a de très nombreux prix de Rome dans l'exposition, avec des artistes dont on a complètement oublié les noms et dont tout on oublie les œuvres aussi vite qu'on les a vues, enfin en ce qui me concerne. Et c'est aussi ce qui explique qu'il y a eu un prix de Rome dévolu au paysage historique, c'est-à-dire en fait qui venait justifier la représentation du paysage à condition qu'on y représente un récit ou une histoire. Et c'est ce qui fait qu'on trouve un très beau Camicoro, justement, Homère et les bergers, qui est un paysage pastoral. Mais c'est aussi ce qui explique qu'avec l'avènement de la modernité, c'est-à-dire les réalistes impressionnistes qui sont contemporains de la plupart de ces peintres académiques pompiers du 19e siècle, eh bien il y a un rejet de la narration au profit de la représentation de la nature et des sensations que la traduction des sensations qu'elle procure, ce qui fait que c'est évacué chez la plupart des artistes de la modernité artistique, à quelques exceptions près, comme on le voit d'ailleurs dans cette exposition avec Gustave Moreau, il y a aussi un Derain, une sorte de représentation christique, mais qui est en fait très, enfin qui n'est pas représentatif de son travail, qui est beaucoup plus des peintures de paysage. Et puis il y a beaucoup de Chagall. Moi personnellement, c'est pas moi.
Il y en a trop.
Voilà, moi c'est
pas vraiment ce que je préfère.
Il y a trop de Chagall.
Mais c'est aussi ce qui est.
C'est une connerie de finir par Chagall quand l'avant-dernière œuvre est extraordinaire. C'est une œuvre d'Anne et Patrick Poirier. Ça s'appelle L'Aviron d'Ulysse. Quand on connaît le travail d'Anne et Patrick Poirier, qui entre guillemets inventer une archéologie fictionnelle, c'était tellement beau de finir par cette pièce dorée qui est très belle, qui est donc un aviron imaginaire d'Ulysse, c'est tellement beau, alors qu'en définitive on finit par un très mauvais Chagall, et il y en a trop.
Oui, il y en a beaucoup trop, je suis bien d'accord, c'est pas tout à fait à mon goût non plus, je m'en serais dispensé, mais c'est tout à fait dans son registre, de Chagall par contre. Mais c'est ce qui explique aussi qu'avec l'art contemporain, qui quand même marque un retour justement au récit, à la narration, on trouve des artistes qui s'approprient à nouveau ces récits-là. Comme Sally l'a dit, Manon Récordon, je pense que c'est une des pièces les plus intéressantes d'art contemporain qui est présentée dans cette expo, puisque ça met en écho en fait le récit homérique avec les migrants au large de Lampedusa. Donc pour le coup là c'est intéressant.
Oui, parce qu'il est quand même question de ce rapport. Enfin, Homère, l'Iliade, l'Odyssée, c'est aussi une forme de la construction du récit de l'histoire européenne au fond. Et Éric de Luca le disait il n'y a pas très longtemps, justement cette idée de la voie liquide, c'est-à-dire qu'en fait toute la mythologie et toute l'histoire elle vient traverser la mer, et au fond cette exposition elle redit ça aussi, mais avec des œuvres. Il faut quand même signaler qu'il y a aussi plein de musiques qu'on peut écouter, plein de films qui sont diffusés, on a oublié de le signaler. Alors ils sont pas à la hauteur des autres œuvres, mais il y a quand même cette présence là du cinéma et de la musique.
Bon, moi, il donnait envie d'aller au Louvre-Lens. Enfin, j'ai toujours envie d'aller au Louvre-Lens. Il faut trouver le temps. On peut en trouver.
On y va quand même en 1h05.
Oui, j'entends bien.
Depuis la capitale. aller.
Très bien. Après, il faut
y rester Lille, un certain temps. On y va en 25 minutes.
Ah oui, c'est pour ça aussi que c'est vrai. Tout à fait faisable. C'est jusqu'au 22 juillet, en plus, pour aller voir cette exposition Homère au Louvre-Lens. Et puis, donc, il y a un catalogue qui est coédité par l'occasion. Gros catalogue, coédité par le musée et par les éditions Liénard. À suivre dans la dispute, Chicago à la Halle Saint-Pierre, Lucie Stahl chez Friedman Fitzpatrick et un petit salon qui nous amènera à l'Atelier des Lumières.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques avec Chicago, foyer d'art brut, exposition à voir, elle, jusqu'au 2 août à la Halle Saint-Pierre. La commissaire en est Martine Luzardi, qui est la directrice de la Halle Saint-Pierre. Musée d'art brut et d'art singulier, ça fait bientôt 25 ans que ce musée existe et qu'il poursuit sa mission. La mission qui s'est assignée, ouvrir notre regard sur un art différent, longtemps tenu à la marge. Alors on sait depuis quelques années que ça n'est plus le cas, pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. On a récemment parlé, c'était plutôt pour le meilleur, d'une exposition consacrée à l'art brut japonais dans cette même Halle Saint-Pierre, il y a quelques semaines. Cette fois, l'exposition qui a ouverte nous envoie à Chicago. Premier tour de table, encore une fois, pour un résumé des impressions que vous allez développer dans un deuxième temps. Fabrice Bousteau.
Alors, une exposition d'art brut très, 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 très molle. Qui pose une question essentielle, le folk art ou l'art outsider est-il possiblement dissolvant, on peut-il être dissous dans l'art brut?
Bon, c'est déjà tout un débat qui s'ouvre. Sarah Heiner-Meyer.
Alors non, je trouve que c'est plutôt une exposition bien conçue qui permet en tout cas pour des non-spécialistes dont je fais partie de découvrir beaucoup d'artistes. Voilà, donc plutôt réussi.
Ça l'est bonne.
Une impression de bric-à-brac revendiquée.
Chicago, à la Halle Saint-Pierre. Alors, Fabrice Bousteau, avant de développer quand même ce débat, mais c'est d'une façon de l'ouvrir, Chicago est-elle, selon le titre de cette exposition, un foyer de l'art brut ou de l'art folk? Je ne sais pas comment vous avez envie de vous emparer de cette question, du coup.
Alors, je suis absolument convaincu que Chicago n'est pas un foyer de l'art brut du tout. Alors c'est une exposition qui présente donc 10 artistes présentés comme des artistes d'art brut, avec un artiste incontestable d'art brut, Henri Dreger, qui était présenté dans beaucoup de musées, qu'on peut voir à Villeneuve-d'Ascq, qu'on peut voir au musée de Lausanne également d'art brut, et qui est un vrai, véritable artiste dit d'art brut. Pour faire très court sur Henri Dreger, c'est que c'est un individu qui, très jeune, a eu des problèmes. Il était reconnu comme schizophrène, il s'isolait, il était violent et il a passé 30 ans de sa vie enfermé dans une chambre de 30 mètres carrés, à travailler seul de manière très solitaire. On reviendra précisément sur son œuvre et on a découvert son travail après sa mort. Tous les autres artistes qui sont présents dans cette exposition, à part deux exceptions, sont des retraités amateurs de art. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que vous regardez la biographie de chacun de ces artistes, ce sont des artistes qui ont commencé à apprendre l'art à l'Art Institute de Chicago et à faire de l'art très mauvais, mais de l'art amateur, ce qui est, moi je prône
la pratique amateur.
La pratique amateur, absolument. Mais qu'on n'aille pas mettre au même niveau, pour remplir une exposition, l'art brut et, j'y reviendrai, l'art outsider et le folk art. C'est de très mauvaise qualité, la plupart de ces artistes. Et en plus, on utilise Henri Dredger, où il y a à peine trois œuvres de présenter et un mauvais diaporama représentant des œuvres. Quand on a vu à la Maison Rouge des œuvres absolument extraordinaires d'Henri Dredger, quand on a vu chez Christian Berst, la meilleure galerie d'art brut et le spécialiste en France, des œuvres extraordinaires présentées sur ses stands, aussi bien à la FIAC que dans sa galerie, c'est vraiment une exposition, j'ai trouvé, extrêmement décevante. Le plus décevant, c'est d'aller lire, je vous conseille tous de lire le texte du catalogue, qui a d'ailleurs vraisemblablement très très mal traduit, parce qu'on a l'impression de lire du franco, je sais quoi. Ouais. Mais les arguments utilisés sont épouvantables. Je pourrais vous en sortir des phrases
dans un instant, parce que c'était juste une petite présentation, une question, mais vous êtes déjà parti. Moi, je l'appellerais plutôt Dardjar ou Darger, ça dépend comment on prononce à la française. Moi, j'ai toujours prononcé à la française. Mais bon. Henry Dardjar. Comment est-elle présentée, cette exposition, Sally, Sarah?
Eh bien, cette exposition, alors, ce qui saute tout d'abord aux yeux, d'abord pour rappeler, donc, comme le disait Fabrice, il y a 10 artistes, dont, qui sont nés entre 1888 ou 80 et 1963. Ils ont tous vécu à Chicago. Il y a Henri Dardjar dans cette exposition, qui est le plus connu d'entre eux, avec ses représentations de jeunes enfants androgynes qui subissent des sévices sexuels extrêmement violents.
Tout ça
sous des traits très naïfs. Et puis les autres artistes sont connus des spécialistes, mais en tout cas moi je les connaissais pas et j'étais plutôt contente, contrairement à Fabrice, de les découvrir. Notamment un certain Aldo Brando Piacenza, qui fait des maquettes d'architecture religieuse en bois et en métal, ou aussi les peintures que j'ai bien aimées de Drosso Skylas, qui sont des paysages à la fois réalistes et fantaisistes. Et puis il y a également les dessins de Joseph Elmer Joachim, qui sont des sortes de cartes géologiques avec des perspectives impossibles et puis des coloris assez doux, pastels. Et donc en termes de scénographie, donc la première chose qui saute évidemment aux yeux, c'est qu'on est plongé dans l'obscurité, puisque les murs de l'Halle Saint-Pierre sont peints en noir, ce qui permet, c'est une convention pour présenter les œuvres d'art brut, qui permet en fait de donner un caractère un peu secret au lieu, et surtout de se démarquer tout de suite de l'espace du white cube, c'est-à-dire des murs blancs, des galeries et des musées. On trouverait par opposition à l'art outsider, et bien l'art officiel ou insider. Et puis après, l'exposition, elle s'organise de manière circulaire, c'est-à-dire qu'on passe d'un artiste à l'autre, un peu comme d'une petite rétrospective à une autre. Il y a un centre qui est vide, où on trouve une vitrine avec des productions d'artistes anonymes, et puis une dernière section où sont mélangées des œuvres d'artistes outsider également identifiés, mais moins connus, et des productions anonymes. Et je trouve que cette organisation circulaire, elle est plutôt bien faite, on circule assez librement là-dedans, et surtout elle permet de rester fidèle au principe de déhiérarchisation des pratiques, qui est au cœur même de la notion d'art brut. Et puis pour finir, Sally parlait de bric-à-brac, c'est vrai que parfois il y a un accrochage qui est volontairement foisonnant, mais ça fait partie aussi des conventions pour présenter l'art brut, pour s'éloigner à nouveau de l'accrochage classique muséal, et c'est ce qu'on est plutôt rejoint d'ailleurs l'accrochage qu'on voit chez les collectionneurs d'art brut, avec des empilements sur des étagères, et c'est ce qu'on trouve par exemple pour Mr. Imagination, qui crée de nombreux totems et trônes avec des capsules de bouteilles, qui font partie de sa mythologie personnelle, puisqu'il aurait une révélation au cours d'un rêve qui lui aurait montré qu'en fait il était un roi anciennement. Et puis il y a aussi William Dawson, qui fait des peintures de mi-animal, mi-humaine, comme ça, qui sont présentées de la même manière. Donc je trouve que sur le fond comme sur la forme, je trouve ça plutôt très réussi.
Mr. Imagination, il faut surtout pas rater si vous allez voir l'exposition.
Oui.
Le documentaire le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie, qui doit durer 3 minutes, où il se met en scène et qui est une espèce de mauvais diaporama. C'est épouvantable. Ça montre la qualité de l'artiste, parce que lui se réclame comme artiste.
Épouvantable ou très drôle.
Oui.
Bon, ça les bonne. Vous n'allez pas trancher, mais donner votre sentiment.
Non, mais le bric-à-brac
et l'horreur.
Pour moi, elle n'était pas nécessairement négative.
Oui, j'entends bien.
D'abord, c'est revendiqué. Mm-hmm. Parce qu'il s'appuie sur cette idée que le Chicago, le foyer de l'art brut, ce serait aussi en lien avec un marché qui se trouve sur Maxwell Street à Chicago, et que ce marché est le lieu où se présentent l'ensemble des œuvres de ces artistes et d'autres artistes qui sont effectivement mélangé dans une des parties. Alors, Sarah évoquait la circulation dans l'espace. Moi, j'avais l'impression que c'était un gâteau coupé en tranches et qu'on rentrait dans une tranche. Alors, au début, je pensais que chaque tranche correspondait à un artiste. Et puis après, j'ai fait le calcul. Il n'y en a que 6 des tranches. Il y a 10 artistes, donc ça n'allait pas. J'étais un petit peu troublée, mais effectivement, ça ne fonctionne pas si mal. Bric-à-brac aussi, parce qu'il me semble que ce panorama de Chicago et de l'art brut à Chicago est assez inégal et qu'il y a des œuvres qui sont très, très étonnantes. Je trouve que les dessins naïfs de Lee Goody avec ces collages, enfin qui sont pas des collages d'ailleurs, mais de photomatons d'elles-mêmes dans le tableau, qui sont cousus en fait, ça fait penser à des ex-votos qui sont assez étonnants et assez troublants. Des dessins au bic de Wesley Wills, qui sont des vues de Chicago complètement déshumanisées parce qu'il n'y a pas de personnages et c'est que des gratte-ciel qui sont que des lignes verticales et horizontales. C'est aussi assez beau aussi. Les dessins, les pastels dont parlait Sarah Joseph Joachim sont magnifiques. Il y a des œuvres qui sont très belles. Il y en a d'autres qui sont effectivement, je ne sais même pas comment les désigner,
enfin,
qui sont de mauvaise qualité. Maintenant, j'ai oublié les noms. Alors parce que j'ai retenu celles qui m'avaient frappée. Et dans ce panorama, en fait, il y a aussi ce qui peut poser problème à mon sens, c'est que les artistes réunis en fait ont des aspirations ou des inspirations ou des questionnements qui n'ont strictement rien à voir. Et là où il y a des œuvres qui sont liées à une pratique un petit peu obsessionnelle, il y en a d'autres qui ont une revendication politique et notamment ou sociale ou ethnique, et ce collage là et pose un petit peu problème. C'est-à-dire pour réunir Chicago comme foyer de l'art brut, on se retrouve avec des choses qui n'ont strictement rien à voir.
Oui, parce qu'effectivement, je pense que comme Fabrice Bousteau, je pense que le titre est trompeur, mais je suis plutôt l'avis de Sarah. Moi, j'ai plutôt envie de découvrir, alors avec des bonheurs divers, mais je pense qu'il y a un problème dans cette exposition, c'est qu'elle réunit des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Entre les obsessionnels d'un côté et puis ceux qui sont dans une pratique plus, alors, soit amateur, éclairé, soit militante, il y a des aspirations qui ne sont pas les mêmes.
Le problème, c'est le même de l'art brut, hein, enfin, je veux dire, ou de l'art outsider.
Non, le problème. Oui, c'est pas la même chose, l'art brut et l'art outsider.
Le problème, c'est que l'art brut et l'outsider n'ont rien à voir. Le problème, c'est la malhonnêteté de cette exposition.
Je pèse
mes mots, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire passer Chicago pour un grand foyer d'art brut. Avec des phrases du commissaire d'exposition américain qui sont quand même, il faut quand même les citer. Il s'agit d'œuvres authentiques, faites par des artistes qui ont créé de la beauté extraordinaire avec des matériaux simples. Il s'agit d'un art non conventionnel. Et des phrases comme Lee Goody aurait-elle été... Lee Goody, c'est l'artiste qui elle-même se considérait, mais qui a étudié l'art, etc., et qui se considérait comme une sorte d'impressionniste à la française, parce qu'elle déclarait ça dans les rues. Le commissaire ose quand même mettre « Lee Goody aurait-elle été acclamée impressionniste française si elle avait vendu ses pièces au marchand du Metropolitan Museum of Art à New York plutôt qu'à celle de l'Art Institute de Chicago ?» C'est une tentative d'aller considérer que Chicago est un foyer d'art brut. Il y a un moment donné une citation de Dubuffet, créateur du terme de l'art brut en 1945, qui est destiné juste à exploiter que Dubuffet aurait sans doute considéré ces artistes comme étant des artistes d'art brut. C'est ça qui est très dangereux, c'est de la manipulation. Et qu'il y a des artistes que... l'artiste qui fait du crayon à billes, il est très sympathique, mais il ne s'agit absolument pas de l'art brut. C'est pour ça que la question qui est très importante aujourd'hui dans cette exposition, et qui est de la manipulation, c'est d'aller expliquer ce que c'est que l'art brut, d'expliquer aussi que le folk art et l'outsider, donc folk art, c'est l'art populaire. En France, il y a un musée des arts et des traditions populaires qui aujourd'hui, dont beaucoup des objets ont été transférés au MUCEM à Marseille. L'art populaire, on sait ce que c'est. L'art outsider, on sait aussi plus ou moins ce que c'est.
Plus compliqué, déjà.
C'est un peu plus compliqué, c'est un peu une sorte de freak art. Mais c'est pas forcément des artistes qui sont, comme le définit Dubuffet, soit qui ont des problèmes mentaux ou des problèmes de santé importants à l'origine, soit qui ont eu aucun enseignement de pratique artistique et qui ont développé leur propre langage artistique. Dans 80% des artistes présentés dans cette exposition fausse d'art brut sur Chicago, ce sont tous des gens qui ont appris l'art et appris la pratique artistique.
J'ai lu toutes les bios également. Et si d'ailleurs, alors après moi je suis pas une spécialiste de l'art brut et par rapport à Chicago,
on en prend
je ne pourrais pas. Non, je préfère pas, mais en tout cas, pour le foyer de l'art brut Chicago, bon, il y a plusieurs éléments, après, peut-être contestables, mais apparemment, donc, effectivement, Dubuffet, il serait allé et aurait présenté sa conférence sur ses positions anticulturelles en 51. Il y a eu beaucoup d'expositions dès les années 70, et il y a eu une exposition en 98 à la Halle Saint-Pierre sur, justement, les collectionneurs de Chicago qui sont très nombreux.
La même exposition à la Halle Saint-Pierre en 1988, qui avait déjà été très contestée, a été contestée également par la fondation Dubuffet, et justement sur l'utilisation de ce terme d'art brut. L'art brut, il faut savoir que c'est Dubuffet qui le crée, c'est une longue histoire, oui. Avec aussi une société qui est créée avec André Breton. Et donc il y a une véritable histoire de l'art brut. Se l'approprier, que Chicago essaie de s'approprier, c'est scandaleux et c'est une fake news de l'histoire de l'art.
Mais pour ce qui est
des artistes, je suis pas du tout d'accord avec vous. Effectivement,
malhonnête, moi je pense, mais bon.
En dehors d'Arida, il y a Henri Darger qui était effectivement le seul à ne pas être en relation avec des communautés artistiques. Les autres étaient soit en relation avec des galeries ou des écoles d'art ou des collectionneurs. Néanmoins, ils étaient tous absolument autodidactes, non professionnels. Ils venaient tous de milieux plus
ils ont tous appris la pratique artistique. Mais c'est totalement faux. Ils ont appris la pratique artistique.
Ce sont des autodidactes. Des autodidactes, non professionnels.
8 sur 10 sont des retraités.
Mais et ça,
justement, qui apprennent l'art.
Mais précisément sur l'âge, la plupart des artistes.
Après, la pratique artistique, c'est le contraire de ce qu'a exprimé.
Non, alors la plupart des artistes, il faut le savoir quand même que la plupart des artistes qui sont considérés comme des artistes d'art brut ou outsiders ont commencé tard leur pratique artistique. Ça, vous pouvez le trouver dans un livre très intéressant qui s'appelle L'art brut, un fantasme de peintre.
C'est pas vrai pour Henri Dreiger.
Mais c'est le cas de la plupart des artistes d'art brut ont commencé tard en fait. Ont commencé autour de 40-50 ans. Ça, c'est une source sûre.
Il y a beaucoup d'artistes auxquels ça est arrivé, notamment un artiste très important qui est l'artiste médiumique. Qui est Joseph Crépin, considéré comme le terme médiumique vient de Breton, qui lui a une révélation en tant que plombier zingueur à 45 ans, mais c'est pas le cas de tous les artistes d'art brut.
Ils sont tous attachés à des croyances justement ésotériques ou populaires. Leur pratique, effectivement, alors vous ironisez là-dessus, mais elle convoque effectivement des matériaux pauvres recyclés, comme les canettes, les capsules de bouteilles pour Mystery
Imagination. Mais c'est de l'art populaire et c'est très bien, mais c'est pas de l'art brut.
Mais alors, excusez-moi, mais à aucun moment vous définissez ce qu'est l'art brut pour autant. Enfin, en tout cas, si c'est des artistes autodidactes qui sont non professionnels et qui sont pour certains passés quand même dans des hôpitaux psychiatriques, si c'est ça votre critère ultime.
Non, mais en tout cas,
ils sont autodidactes et non professionnels. Donc on peut pas, c'est incontestable. Relisez les.
Oui, en même temps, il y a une présence du milieu artistique, de l'inscription en milieu artistique qui, à mon sens, posait problème sur la définition de la désignation d'art brut.
Parce que le facteur cheval, il n'a pas fait d'école. Gaston Chessac, il n'a pas fait d'école d'art. Ils n'ont pas. Ils ont fréquenté des cours du soir. Bon, mais c'était pas le débat. Mais en tout cas, il est riche. Mais le problème, c'est qu'il faut s'arrêter. Et en plus, il y a un coup de cœur à venir de Sarah Hellermeyer qui doit être très rapide. Car il y a un petit salon qui doit suivre. Eh ben oui. Mais là, vous êtes parti très loin sur ce Chicago foyer d'art brut ou pas. Hein, on a rebaptisé l'exposition. C'est jusqu'au 2 août à la Halle Saint-Pierre. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Car je pense nous aurons des nouvelles de la Halle Saint-Pierre. Il y a une publication ici. Chicago, l'art contre flot d'édition Intuit. Sarah Hellermeyer, sans contradicteur, parce que c'est l'heure du coup de cœur. Allez, Sarah, de quoi s'agit-il ?
Donc, il s'agit de Lucy Stahl, donc une artiste allemande qui vit à Berlin, qui est née en 77. C'est dans la galerie Friedman Fitzpatrick, qui est une galerie californienne, qui a ouvert ses portes à Paris il y a un peu plus d'un an. Et donc, elle fait des sculptures et des photographies. Elle est surtout connue pour ses photos, qui consistent à scanner sur un même plan des objets de consommation, des déchets, comme des canettes de coca, des paquets de chips, des pages de magazines, mais aussi des végétaux, comme des fleurs et des feuilles fanées, et en laissant apparaître souvent des parties de son propre corps avec des traces de doigts, des empreintes digitales. Et ces images, généralement, sont recouvertes d'une couche de polyuréthane aléatoire, ce qui les rend à la fois brillantes et lisses et un peu séduisantes et en même temps étranges. Et donc, à chaque fois dans ces productions, l'enjeu est pour elle finalement d'aborder notre monde contemporain occidental, qui est pris dans des logiques capitalistes de production et de consommation invasive, qui mobilisent les corps, les désirs, la libido. Mais plus que des documents d'époque, ce qu'elle propose finalement, c'est des sortes presque d'anticipation sur ce qui pourrait advenir, en proposant justement des œuvres qui mélangent les règnes naturels ou technologiques, organiques et inorganiques. Et donc ce qu'on voit dans l'exposition qui s'appelle Fuel, donc carburant, c'est tout d'abord une très grande sculpture qui est composée d'une tireuse à lait géante et qui est surmontée d'une enseigne de gasoil imaginaire, et puis une série de photos qui semblerait tout droit sorti d'un calendrier Pirelli, hein, volontairement un peu kitsch, où on voit des parties de cette machine qu'on voit dans l'exposition, et aussi des barils de gasoil Texaco en gros plan, comme si c'était un peu des corps sensuels et charnels. Et d'autres photos où on voit des parties de son corps, en l'occurrence ses seins, qui sont recouverts d'une poudre de métal noir ou grise, et dont les tétons sont remplacés par des bouts de machines, des rouages de machines qu'elle tient par ses mains. Des mains qui tiennent dans d'autres photos d'ailleurs des tireuses à lait assez fermement. Et puis il y a une dernière pièce qui est un baril de pétrole sur une tige de métal, enfin sur une barre de métal, ce qui donne l'aspect d'une sorte de moulin à prière tibétain ou de pole dance sur lequel serait une danseuse. Et donc ce qu'on voit là, ce sont différentes machines et objets qui sont liés à l'extraction et à l'exploitation en fait des ressources naturelles, avec des symboles qui sont le plus généralement liés à la virilité, hein, comme l'essence, la mécanique ou le garage automobile, et qui sont associés à des symboles plutôt liés au contraire au féminin, on va dire, avec le lait, les seins, comme si finalement l'artiste cherchait à montrer que la domination capitaliste de la nature allait de pair avec une domination entre les genres, c'est-à-dire des hommes sur les femmes, femmes dont le travail est le plus souvent invisibilisé quand même, elle en parle d'ailleurs dans un des textes, et donc en fait, en produisant ces sortes de corps-machines, ce qu'elle fait, il me semble, c'est de finalement détourner des instruments de la domination pour en faire des outils d'empowerment dans une sorte de cyber-féminisme qui n'aurait rien d'écologique, mais qui est vraiment chargé d'un humour assez cinglant.
L'exposition s'appelle Fuel, c'est Lucy Stahl, alors il faudrait dire.
Stahl.
C'est jusqu'au 18 mai à la galerie Friedman Fitzpatrick qui se trouve au 8 rue Saint-Bon dans le 4e arrondissement de Paris. Nous voilà entrés, certes un peu tard, mais tout de même dans le petit salon, Lucide Como, où vous êtes immergée.
Oui, je me suis immergée. Je suis allée hier dans l'atelier des Lumières, rue Saint-Maur à Paris, un lieu dont j'entends parler depuis des mois. Et de fait, ce lieu est un grand succès. Il a attiré plus d'un million de visiteurs en 9 mois, soit autant que le Grand Palais à Paris sur l'année 2018 et le triple du centre Pompidou-Metz. Alors, il y a du monde, hein, la jauge est limitée. Il faut donc réserver à l'avance, sinon on se fait refouler à l'entrée par des vigiles qui, je précise, sont habillés en tenue quasi militaire. C'est assez impressionnant. Voilà pour une petite impression d'entrée. Depuis quelques mois, on propose dans cette ancienne fonderie une exposition, le mot est entre mille guillemets, sur l'œuvre de Van Gogh, ainsi qu'une autre intitulée « Japon rêvé, image du monde flottant ». Alors, une fois passé l'entrée, on passe une double porte battante, un peu comme au cinéma, et on se retrouve dans un vaste espace, très haut de plafond, aménagé avec quelques pans de murs, des recoins, une galerie de glace au milieu, une mezzanine et 2-3 bancs et tables disséminés par-ci, par-là. Commence alors une session d'une trentaine de minutes où sont projetées sur les murs, les plafonds et le sol du Van Gogh. Donc des peintures entières défilent, des détails s'animent parfois, des traits apparaissent puis disparaissent, des couleurs, le tout sonorisé avec une playlist dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est éclectique. Des extraits d'opéra italien, La Moldao, Nina Simone, etc. Les gens circulent, certains s'assoient, beaucoup font des photos. Générique, on applaudit puis rebelote avec le Japon. Alors on n'est pas très loin du spectacle, de l'attraction, du son et lumière, en tout cas assez loin du musée, ce que revendique d'ailleurs pleinement le lieu. Le directeur de l'atelier des Lumières, Michael Gouzigou, définit ainsi son projet. Notre point de vue, c'est qu'une image, une expérience artistique visuelle combinée à de la musique, va créer chez le spectateur une émotion particulière qu'il n'aurait pas forcément eue en contemplant simplement l'œuvre. L'émotion, c'est aussi le critère de réception que revendique à plein le directeur artistique Gianfranco Iannuzzi, qui est à l'origine des vidéos, qui considère considère que le pari est gagné quand, je le cite, il voit des enfants qui jouent avec les images au sol ou des couples qui s'enlacent et dansent sur la musique. Le pari est en effet largement gagné, l'entrée coûte près de 15 euros, mais le lieu ne désemplit pas et la société privée Culture Espace qui gère l'atelier prévoit d'en ouvrir encore un nouveau à Bordeaux d'ici 2020 ainsi que d'autres dans le monde entier. Alors si le public est au rendez-vous, la critique, elle, ne semble guère sensible à l'argument de l'Atelier des Lumières et se rejoue indéfiniment la guerre de la démocratisation culturelle contre la valorisation des œuvres, du divertissement contre l'expérience esthétique. Un débat qui se joue en permanence dès qu'il est question d'exposition augmentée, d'exposition immersive ou de l'usage numérique d'œuvres classiques. Or ce qui est proposé là n'est pas donné comme une exposition Van Gogh, hein, mais éventuellement comme une œuvre numérique sur Van Gogh. À partir de là, est-il possible de sortir de ce débat-là et de considérer vraiment l'Atelier des Lumières comme un lieu d'art, comme un autre?
Ah, c'est ça la question, pour finir.
C'est ça. Je vois les grimaces, ça n'a pas l'air de
Il y a des grimaces. Ça, les bonnes, tiens, voilà. Ça, c'est vous qui allez commencer.
D'accord. Alors, j'ai fait la même expérience que Lucille, effectivement. Beaucoup, beaucoup de monde. Applaudissements. Playlist, effectivement, très éclectique. Il y a aussi du Vivaldi, du Janis Joplin, du Miles Davis. Beaucoup d'airs d'opéra. Des fleurs blanches qui s'envolent des arbres de pin par Van Gogh, qui sont peints d'ailleurs devant nous sur les murs. C'est vraiment un assemblage, un collage, une recomposition des tableaux avec cette espèce de volonté, parce qu'il y a une narration, hein, le film de sur Van Gogh dure une trentaine de minutes, et il y a une narration, c'est-à-dire sur son œuvre, son histoire, donc on... Et cette histoire est recomposée en fait avec cet agencement de tableaux. Donc tout d'un coup, on a une séquence, parce que c'est que comme ça qu'on peut l'évoquer, une séquence avec des portraits de femmes, donc sortis des tableaux eux-mêmes. Et puis il y a des portraits de femmes partout, en grand, même très grand, puisque le trait de pinceau tout d'un coup a un mètre. Alors c'est un centre d'art, enfin qui se veut un centre d'art numérique. La question de savoir qu'est-ce que c'est que l'art numérique, il se trouve qu'il y a un art numérique qui s'appuie sur un langage, sur des dispositifs, sur les mises en réseau, sur l'usage des ordinateurs. Donc là, plutôt que de l'art numérique, il me semble que c'est plutôt de l'art numérisé et qui pose l'énorme problème, parce que c'est très grandiloquent, hein, très très spectaculaire, féerique. Moi, j'entendais des gens qui disaient « Ah, c'est féerique !» Si on se laisse prendre, on peut considérer que c'est féerique. C'est-à-dire, effectivement, si on met un agrandissement de tableau, la belle des couleurs magnifiques, et puis...
Et la musique à
pour
fond.
Pour peu qu'on ait, on ait envie d'écouter le printemps de Vivaldi à ce moment-là, on est très heureux. Hein, parce que c'est... Mais en même temps, se pose quand même la question à la fois de la recomposition historique de l'œuvre d'un artiste et sa lecture. Et ensuite, moi, j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de fond d'écran géant en 3D. Et voilà.
Fabrice Bousteau.
On a fait de Picasso une voiture. Je suis assez honnêtement assez fasciné par ces expériences qui utilisent la technologie numérique pour médiatiser l'œuvre d'artiste et en faire un spectacle très grand public. C'est vrai que l'argument pour moi de la démocratisation culturelle, encore une fois, qui est toujours un échec, elle est essentielle pour moi. Quand j'y suis allé, je suis allé aussi bien au Beau de Provence qu'à Paris. Moi, j'ai adoré voir ce public qui prend vraiment du plaisir. Et surtout, j'ai posé la question à Culture Espace, c'est que la très grande majorité a envie d'aller voir des œuvres de Van Gogh en vrai. C'est vrai que s'approprier une œuvre, s'approprier les dimensions d'une œuvre, on pourrait croire que ça peut être totalement perturbateur. Je rappelle que de très nombreux médias de la presse écrite reproduisent des œuvres sans préciser une seule seconde la taille de l'œuvre et mettre en très grand un détail ou en très grand une œuvre qui fait 10 cm de largeur. Donc c'est une pratique qui existe très largement et que rien ne remplace le rapport au réel, c'est-à-dire à l'œuvre qu'on en a en face. Si je prends l'exemple de Van Gogh, je l'ai toujours dit maintes fois, Van Gogh est un c'est impossible de reproduire un Van Gogh dans un magazine comme le mien. Parce que Van Gogh, c'est de la matière et c'est de l'énergie, de la lumière. Donc c'est aussitôt plat, ça ressemble à une croûte. Donc moi, je pense que le travail de l'atelier de lumière, et je sais que à terme, ils ont aussi des vrais projets avec des artistes contemporains, également numériques, mais qui vont revisiter les grands maîtres de l'histoire, évidemment. C'est quelque chose qui, à mon avis, contribue très largement à démocratiser la culture, et je pense que ça entraîne les gens dans les musées, et je trouve que c'est un spectacle plutôt agréable, somme toute.
Sarah Hilermeyer.
Alors, un spectacle pas du tout agréable pour moi non plus. Je suis plutôt de l'avis de Sally, à savoir que j'ai cru vivre un cauchemar où j'aurais été coincée dans un écran de veille d'ordinateur avec son diaporama d'images animées et puis sa bande-son playlist YouTube qui nous fait passer effectivement de Nina Simone à Vivaldi en passant par Janis Joplin pour bien nous rappeler que Van Gogh était un écorché vif au cas où on l'aurait oublié. Et puis, alors après, sur la question est-ce que c'est bien ou pas de transposer des œuvres d'art dans ce type de dispositif, a priori, pourquoi pas, même si ce serait qu'on peut considérer que de toute façon, ça va dénaturer l'œuvre et l'expérience qu'elle propose. Expérience qui est d'ores et déjà immersive et hypnotique sans avoir besoin d'un dispositif son et lumière. Après, je crois que ça tout dépend en fait de l'artiste et de l'œuvre. Il me semble que pour les mondes flottants, c'est-à-dire les estampes japonaises, ça fonctionne plutôt pas trop mal parce que c'est des œuvres très graphiques, donc elles sont facilement détourables, on peut facilement animer les figures. D'autant qu'il se trouve que les murs là sont pris en considération, les volumes, les parois se transforment en sorte de parois coulissantes justement japonaises. Pour ce qui est Van Gogh, c'est une pure catastrophe. C'est-à-dire que là, c'est quasiment irrespectueux. Les figures sont mal détourées. Elles sont floues. On voit pas du tout la touche, la matière. Les images s'enchaînent toujours au même rythme, avec des zooms et des dézooms et des split screens qui est très grossier. Enfin, ça donne l'impression, en fait, que c'est le pôle communication qui aurait tout fait, après une formation diaporama, print et montage express. Et franchement, je me suis sentie un peu plus proche des œuvres dans la boutique en regardant un torchon sur lequel est imprimé un Van Gogh que dans la salle. Enfin,
c'est vrai qu'il y a des œuvres qui s'y prêtent plus ou moins, et je pense que le lieu est important. Vous avez évoqué les Baux-de-Provence, parce que donc il y a les carrières de lumière qui se trouvent là-bas. Le lieu est en lui-même assez monumental, majestueux, et les projections jouent avec les infractuosités, les découpes, et ça n'a rien à voir avec le lieu parisien qui propose des aplats, si je puis dire. Et moi, je sais que la première fois que j'ai été aux carrières de lumière, c'était Jérôme Bosch, et que ça marchait merveilleusement parce que du coup, on pouvait aller dans les détails des tableaux et que Bosch s'y prête particulièrement bien, de découvrir telle ou telle figure monstrueuse, fantastique, et qu'il y avait quelque chose qui marchait. Je pense que ça...
Oui.
Ce
qui est certain, c'est qu'on a un tournant important, puisque effectivement, le Espace va en ouvrir d'autres dans le monde, mais surtout, je prends un exemple aussi des Microfolies lancées par Didier Fusier, qui sont d'une manière plus sophistiquée, un très grand écran, et qui permettent aujourd'hui, qui sont un tel succès qu'on va en ouvrir 100 en France, et que dans le monde entier, on a des projets comme ça d'immersion numérique. C'est évident que c'est en train de conquérir le monde. Après, il y aura des auteurs et des réalisateurs de qualité différente.
Comment ?
En effet, c'est pas la même chose, et il y a un malentendu à mon avis, c'est ce que vous pointiez tout à l'heure, Sally, entre l'art numérique et l'art numérisé.
Ah oui.
Là, dans le cas de Van Gogh, moi-même, la visée pédagogique, je l'ai pas du tout sentie. Par exemple, le caractère narratif que vous avez décrit, moi, ne connaissant pas du tout la chronologie de l'œuvre de Van Gogh, je l'ai pas senti. Je pense que les gens qui ne connaissent absolument pas Van Gogh n'apprennent absolument rien sur Van Gogh en regardant ça. En effet, sur le Japon, c'est un peu plus intéressant parce qu'à la limite, c'est plus abstrait. Il y a un côté collage assumé, puisque il y a plusieurs œuvres, c'est un peu tout mélangé. Oui, voilà. Puis autant assumer totalement le collage, quoi, et faire un truc complètement dessin animé, je trouve. C'est plus intéressant.
Mais c'est pas de l'art numérique.
Oui, c'est pas de l'art numérique.
Sarah Hilermeyer.
Oui, effectivement. Enfin, tout le problème, justement, c'est que les volumes sont pas du tout pris en compte pour Van Gogh. C'est juste projeté comme ça sur le mur, sans prendre justement en compte les angles, les creux. Et après, il y a une dernière salle qui s'appelle le studio, où là, il y a des créations à proprement parler numériques. Alors, celle-ci, on peut l'apprécier ou pas. Ça ressemble un peu quand même à ce qu'on pourrait voir à la Géode. Ou quelque chose dans ce goût-là. Néanmoins, il me semblerait plus intéressant d'inviter des artistes qui produisent des œuvres numériques à proprement parler.
Parce que l'espace, il est super. Enfin, vraiment, c'est un espace incroyable.
Ouais, technologiquement,
le dispositif, il peut être
formidable.
En soi, la question, c'est d'essayer d'inviter à une expérience de la peinture, alors que c'est absolument l'inverse qui est proposé, c'est-à-dire qu'on va mettre du mouvement là où il y a où c'est statique, on va mettre de la musique là où il y a du silence, et on va mettre.
En fait, l'invitation, c'est plus à un univers. Qu'à de la peinture, c'est plus un univers qui marche. Quand c'est le Japon, ça marche. Quand c'est Bosch, ça marche. Mais c'est pas une expérience de peinture au sens matériel.
Non, mais c'est quand même ça qui est revendiqué. C'est-à-dire, c'est art, immersion, expérience. Oui. Enfin, art, musique, expérience. Ouais. Donc il y a cette dimension d'une expérience de la peinture. Et les premiers articles, parce que quand ils ont ouvert, c'était Klimt. Ce qui était dit, c'était quand même, on rentre dans la peinture de Klimt. Et voilà, si,
mais
si,
en fait, si, le mot de peinture, est, c'est lui qui est malhonnête, c'est rentrer dans l'univers, on rentre dans le monde, on rentre dans les sensations, on rentre pas dans la peinture.
Non, on rentre pas dans les sensations de Van Gogh non plus, enfin à mon sens, on rentre pas dans les sensations de Van Gogh.
Dans les couleurs, dans les lumières, dans les... mais pas dans la texture, mais pas dans la matérialité.
Mais ce qui est peut-être un peu même décevant, c'est que la création contemporaine, parce qu'il y a trois films en fait, il y a Van Gogh, le Japon, qui est effectivement bien, bien mieux, plus réussi, et une troisième qui est une création contemporaine.
Dans le bar.
Et là, qui est à la suite, qui s'enchaîne.
C'est l'histoire du lieu, je crois.
Et là, on est dans l'univers, les planètes qui exposent, le macro et le micro, et c'est un peu futuroscope. Oui.
Bon,
c'est pas très réussi. Quoi.
Allez voir par vous-même ou pas. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va nous rappeler tout d'abord la question du jeu d'hier au soir, avant de nous donner sa réponse. Joséphine.
La question était: quel artiste américain a détourné l'Olympia de Manet en 1970 pour dénoncer la ségrégation raciale aux États-Unis? Et la réponse était Larry Rivers.
Et à propos des États-Unis, ce soir, on fait gagner des places pour aller voir le évidemment formidable nouveau documentaire de Frederick Wiseman, Monrovia Indiana, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. On en parle nous vendredi. Quelle est la question, Joséphine?
Dans lequel de ses documentaires, Frederick Wiseman montre-t-il le quotidien de patients diagnostiqués criminels aliénés?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin, prise de son Jean-Frédéric, réalisation Émilie Valla. Demain, 19h, dispute consacrée à la littérature. Nous serons avec Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Laurent Nunez. Nous parlerons de D'os et de lumière de Mike McCormack, les modifications de Sayed Kashua, des balles et de l'opium de Liao Yiwu et un coup de cœur de Laurent Nunez pour Rupture de Claire Marin.